Welcome to Greendale's Drug Awareness Show!
I finally have a case of lupus.
Lester, is this what you want?
Mr. Buckland, we are the sexual revolution.
What is up with the sex? It's all anybody thinks about anymore. Sex, sex, sex. What is the big deal?
Call it.
Are you right?
Yeah.
Yeah?
Are we having fun yet?
Bien le bonsoir, bienvenue à l'écoute de Sari Folie, l'épisode 15 de la saison 3. Bonsoir Aurore.
Bonsoir Ben.
Bienvenue, c'est une nouvelle édition de cette émission qui vous parle série télévisée qui démarre. On va faire comme d'habitude, si tu le veux bien, avec une petite revue de l'actualité de la semaine.
Oui, et je vais donc commencer par quelques pilotes, puisque comme on est en début de redémarrage des séries, on a beaucoup de pilotes pour le moment, notamment de Shannara Chronicles. C'est une série MTV qui se veut très fantastique, épique, un petit peu sur le modèle du Seigneur des Anneaux.
Ok.
Et nous avons en personnages principaux des elfes, notamment une elfe qui est une princesse elfe et qui arrive à force d'entraînement à rentrer dans une sorte d'élite qui est censée protéger un arbre sacré. L'arbre sacré étant la seule chose qui permet d'empêcher les démons de réapparaître dans leur monde. Et évidemment, il va y avoir un problème, tu t'en doutes un petit peu. Et donc, à partir de là, on va avoir d'autres personnages un petit peu différents répartis à d'autres endroits du territoire qui vont commencer à s'intégrer à l'histoire, mais dans l'idée qu'il va falloir régler cette espèce de grosse... Gros danger qui se profile à l'horizon avec la mort de cet arbre progressive apparemment, puisque alors le pilote était un double pilote, il durait quand même 1h20 je crois, mais on voit par exemple qu'il y a une feuille qui tombe de cet arbre et quelque part dans cet univers se crée un démon, une espèce de... Je ne sais pas exactement quelle créature c'est. Je dois t'avouer que je l'ai regardé il y a quand même peut-être 2 semaines maintenant. Et malgré tout le côté héroïque qui peut être plaisant, malgré un aspect visuel vraiment très convaincant, vraiment c'est très joli... j'ai pas du tout été convaincue par ce pilote. Et donc, encore une fois, c'est une série que je ne continuerai pas. Pourquoi ? Principalement parce que nous avons affaire à un monde totalement imaginaire, avec des elfes, des gens qui n'ont absolument pas à se comporter, se parler, se mouvoir comme des gens de notre monde à nous. Et c'est là que le bas blesse, parce qu'on a tous ces personnages-là sont tous des adolescents qui parlent et se comportent comme des adolescents. Et ça m'a vraiment dérangé. Et c'est là que tu sens vraiment que tu as affaire à une série MTV, en fait. Et donc okay. Voilà.
Qui s'adapte un peu trop au monde des ados, en gros.
Oui. Alors peut-être que simplement je suis sûrement même que je ne suis pas la cible, mais c'est un petit peu dommage quand on a quand même manifestement une ambition de créer un monde aussi fantasmatique, de pas réussir à y faire adhérer totalement à cause de d'un détail pareil quoi. Donc voilà, c'est un peu triste de voir ça. C'est un gâchis d'après moi. Ensuite, deuxième pilote dont je vais parler. Alors j'ai pas beaucoup de chance avec les pilotes de cette semaine-ci. Il s'agit de Billions sur Showtime. Alors je dois t'avouer que ce pilote-ci, j'en attendais quand même beaucoup parce que ça nous a été présenté comme une série dans le milieu de la finance, assez ambitieux, avec à sa création une personne qui s'y connaît véritablement, qui a écrit un livre sur le sujet, donc quelqu'un de très documenté. Et donc je m'attendais à quelque chose de vraiment subversif. Je m'attendais à quelque chose qui tienne un propos vraiment intelligent et intéressant sur le sujet. Et dès les premières images, on comprend que ben non, ça va pas être le cas, vu que dès les premières images, en fait, il s'agit d'une scène sadomaso. Et donc voilà, le décor est planté. C'est vrai qu'on est sur Showtime. Est-ce qu'il fallait s'y attendre ? Je sais pas, peut-être. Mais je trouve ça très dommage. On a de très bons acteurs. On a notamment Damien Lewis qui est le Adrien Brody. Brody dans
Homeland.
On a l'actrice qui jouait aussi dans Sons of Anarchy, Tamara. Je sais plus son nom à celle-là. Bref, on a des acteurs qu'on connaît, des acteurs dont on sait quand même le potentiel. On a a priori quelqu'un à la création qui connaît son sujet. Et pourtant, on se retrouve face à un truc très cliché, très, très racoleur aussi, et finalement qui n'a pas l'air de tenir véritablement un quelconque propos sur le sujet dont il prétend traiter, c'est-à-dire le monde de la finance. Mmh. En gros, l'histoire, c'est une sorte de jeu de chat et la souris entre un super riche qui, suite aux attentats du 11 septembre, s'est retrouvé seul survivant dans sa boîte et a donc tout reconstruit et est devenu multimillionnaire ou milliardaire, j'imagine, vu le titre, grâce à ses magouilles financières. Et on a un procureur qui va essayer de mettre à jour des malversations qui permettraient de le faire tomber. On a l'idée que ce milliardaire en question est parti de rien, qu'il vient d'un milieu modeste, etc. Donc, mais on ne croit, enfin moi en tout cas je n'ai cru à rien, et on rajoute au milieu de ça une sorte de conflit d'intérêts vu que la femme du procureur travaille pour le milliardaire en question. Bon, non.
Ça ne t'a pas passionné en gros.
Vraiment pas, je n'ai pas adhéré une seule seconde, j'ai trouvé ça vraiment très racoleur et donc... Et donc, c'est une grosse, vraiment grosse déception à ce niveau-là.
Ok.
Ben, je ne sais pas si toi oui, tu as quelque chose à en dire.
Non,
mais...
Rien d'excellent non plus, non, de fait.
Voilà. Ensuite, nous avons sur la Fox, cette fois-ci, on revient un petit peu à un network, Second Chance. Alors, de quoi s'agit-il ? Ici, le pitch est un petit peu particulier. Nous avons un vieux shérif qui a été mis à la porte suite à des accusations de corruption. et qui, un soir, meurt en essayant d'arrêter des cambrioleurs qui se sont introduits chez son fils. L'homme en question, enfin le meurtre en question est déguisé en suicide et le corps est récupéré par deux jumeaux milliardaires super super forts en technologie.
Déjà l'âge décroche, tu vois.
qui vont le régénérer. Enfin, lui redonner la vie, en tout cas, plus jeune. Pas seulement le réanimer, parce qu'il est, il va être vraiment plus jeune et beaucoup plus fort aussi. Et tout ça parce que il a apparemment un ADN extrêmement rare qui lui permettrait de guérir la sœur du binôme en question. Qui est atteinte d'un cancer incurable, et voilà, il cherche absolument une solution. Bon, jusque-là, déjà, c'est un petit peu tarabiscoté, mais admettons, ce sont les bases. Le problème, c'est qu'en plus, à partir de ces bases-là, on va nous inventer que, ben, évidemment, il a le gène du flic en lui, et donc il ne peut pas s'empêcher de vouloir absolument résoudre des enquêtes. Okay. Dans sa ville, tu vois, ça me paraît évident. Et donc, voilà. Alors, il y a son fils qui est agent du FBI. Donc, forcément, ils vont plus ou moins collaborer sans qu'il ne lui révèle sa véritable identité. Mais malgré tout, c'est quand même bizarre. Donc, son fils enquête un petit peu sur lui, se méfie. Enfin, c'est un...
c'est un peu fouillis, comme...
Oui. Alors,
je suis pas tout à fait. Si, je suis tout, mais c'est pas fini.
Ah bon. Le problème, c'est que c'est super con.
Super con. C'est qu'est-ce super que t'appelles con. Une série de super con.
Mais tout est débile. Il y a aucune explication qui tient la route. Il y a à chaque fois, mais en fait, au bout d'un moment, s'il ne retourne pas dans sa cuve, il dégénère complètement et donc il risque de mourir à chaque fois qu'il sort de la maison des jumeaux. Mmh. Mais en même temps, bon, lui c'est un homme, tu vois, c'est un vrai, donc il veut absolument aller sauver sa ville. Et donc il est obligé de se faire sauver par une sorte de drone qui vient le chercher au dernier moment pour le ramener à la dernière seconde dans sa cuve pour qu'il meure pas. Enfin, c'est n'importe quoi. Et c'est très, très, très dommage parce que il y aurait eu la possibilité d'avoir une belle relation entre ce père auquel il est donné une seconde chance, alors que manifestement il n'a pas été super bon père dans sa première vie, et son fils qui a des comptes à régler, et donc ça aurait pu donner quelque chose de bien, un petit peu comme dans Fringe, sauf que dans Fringe, bah, il reste vieux, mais où on pourrait voir cette relation père-fils évoluer comme ça. Mais le problème, c'est que tout le reste autour est tellement con que même s'ils arrivent à établir une relation, on n'adhérera de toute façon pas. Donc voilà, c'est triste, mais ce sera tout.
Donc là non plus, tu continues.
Non, je ne continuerai pas.
Okay.
Pour quand même terminer sur une note positive,
oui.
Je ne vais pas trop en dire parce qu'on n'a plus le temps, je crois.
Non.
Mais c'est enfin le moment... du début de Lucifer, à nouveau sur la Fox. Et là, c'est une vraie belle surprise parce que si vous vous souvenez de ce que j'en avais dit il y a 8 mois quand on avait vu les teasers arriver, je trouvais ça vraiment ridicule, cette idée d'avoir le diable qui vient aider la police de Los Angeles à résoudre des enquêtes. Et puis finalement, le pilote est génial. Et donc, je n'ai qu'envie de voir la suite.
Bah, c'est bien. Au minimum, tu termines sur une note positive.
Mais j'expliquerai probablement un peu plus la fois prochaine de quoi il s'agit.
Très bien. Bon, Petite pause musicale avant d'attaquer le vif du sujet. Et oui, on ne dirait pas comme ça, mais
oui.
On attaquera seulement le vif du sujet dans quelques instants.
Et donc, on va s'écouter une musique entendue dans Lucifer. Justement, il s'agit de Devil's Haircut de Beck.
Something's wrong, 'cause my mind is fading. And everywhere I look, there's a dead end waiting. Temperature's dropping at the rotten oasis. Stealing kisses from the leprous faces. Heads are hanging from the garbage man trees. Mouthwash, jukebox, gasoline. Pistols are pointing at a poor man's pockets. Smiling eyes ripping out of his sockets. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut. On the sympathy crutches. Discount orgies on the dropout buses. Hitching a ride with the bleeding noses. Coming to town with the briefcase blues. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind.
Voici de retour pour entamer le sujet du jour qui sera, ma chère Aurore.
Qui sera nos séries à l'épreuve du réel. Alors, tu te souviens que la semaine passée, j'avais parlé de Making a Murderer comme étant une bonne surprise pour cette rentrée. J'avais expliqué à quel point c'était prenant.
Oui, tout à fait.
Voilà, depuis, on a fini la série.
Et oui, et oui.
Et oui, tous les deux. Et donc, je dois avouer que ça m'a quand même posé question, puisque ici, nous n'avons pas affaire à une fiction, nous avons affaire à un documentaire, donc il s'agit d'une vraie histoire, de vraies personnes. Hein,
oui, tout à fait.
C'est même pas une reconstitution, c'est vraiment
des documents réels
dans les tribunaux, etc. Et je me suis dit, si ça avait été présenté sous la forme d'une fiction, probablement que je n'y aurais pas adhéré. Je me suis rendu compte que c'est Peut-être. Alors, c'est peut-être, ça m'est peut-être très personnel, mais d'autres personnes sont peut-être moins sensibles à ça, mais c'est vrai que tout ce qui porte un propos un petit peu trop cru et trop pessimiste sur la société, sur l'humain en général, c'est quelque chose qui dans la fiction me dérange beaucoup. Et souvent, c'est le genre de série que je vais critiquer comme tenant un propos misanthrope, paranoïaque ou ce genre de choses-là. Donc ça m'a particulièrement interpellée, puisque ici, je peux même pas me dire, critiquer en disant non, c'est n'importe quoi ce qu'on nous raconte. Parce que apparemment, c'est vraiment arrivé.
La réalité dépasse certaines fictions, et même pas dans des effets spéciaux, ce genre de choses, mais l'histoire est tellement difficile à croire, enfin irréelle,
oui.
En gros.
Oui, exactement. Et donc, j'ai vraiment... ça m'a vraiment interpellée sur ce que je cherche, finalement, dans une fiction. Pourquoi est-ce que je m'intéresse autant aux fictions? Est-ce que c'est une manière de fuir la réalité, finalement?
En tout cas, on nous dépeint toujours au minimum une réalité un peu léchée. Enfin, déjà, le fait de filmer en mode fictionnel, on va toujours essayer d'aller chercher les belles images, c'est bien monté, c'est toujours propre, en belles couleurs, de belles musiques, que sais-je, moi. Quand c'est un reflet de la réalité, déjà, c'est déjà moins beau. À la base.
Oui, oui. C'est vrai qu'il y a énormément d'éléments. Et d'ailleurs, on va essayer tous les passer en revue. Mais il y a énormément d'éléments qui font que, finalement, la fiction embellit énormément de choses.
Bien sûr.
Alors, évidemment, elle embellit simplement l'image. Elle embellit les moments aussi en mettant de la musique par-dessus ou ce genre de choses. Donc, elle rend les choses un petit peu plus lyriques parfois ou dramatiques à travers un certain nombre de techniques de mise en scène et de son, etc.
De son et puis de prise de vue qu'on ne peut pas toujours s'autoriser quand on le fait en mode reportage, vraiment se représenter la réalité. On peut faire vraiment des techniques de prise de vue qui peuvent être répétées maintes fois pour arriver à faire le plan parfait. Quand on suit simplement le fil d'une vie ou d'un moment bien précis qu'on ne sait pas répéter à 10 fois, inévitablement, la caméra, à certains moments, ne sera pas placée au meilleur endroit. Donc, voilà.
Oui, donc, voilà. Il y a plein d'éléments comme ça qui font, finalement, qu'on peut se rendre compte à quel point la fiction est idéalisée par rapport au réel. Donc, il y a ce point de vue purement artistique, mais il y a aussi, par exemple, les personnages. Que ce soit au niveau de leur beauté, que ce soit au niveau de leur intelligence, que ce soit au niveau aussi de leur originalité ou de leur caractère intéressant, un peu singulier, ou que ce soit même dans le sens où ce sont des personnages qui, malgré tout, à travers différentes techniques narratives, arrivent à nous faire plus ou moins rentrer dans leur tête. Quand ce sont des vraies personnes, souvent on se retrouve face à un mur qui, s'ils ne parlent pas, on ne sait absolument pas ce qu'ils pensent. Et même s'ils parlent, on n'est pas sûr que c'est vraiment ce qu'ils pensent. Enfin, au niveau de l'accessibilité de ce qui se passe dans leur tête, c'est beaucoup plus compliqué. Au niveau de l'originalité, à nouveau, on va avoir beaucoup plus à faire à des gens assez ordinaires qui ne sortent finalement pas énormément du lot, qui passeraient inaperçus.
Une nouvelle fois, ils n'ont pas nécessairement dans leur tête une batterie de scénaristes qui vont pondre les phrases complètes, idéales au bon moment, hyper bien réfléchies. C'est clair que la fiction, t'as tout, enfin, c'est tout un lot d'acteurs qui relisent un texte extrêmement bien préparé. Donc,
ben oui.
Voilà. C'est comparable.
C'est pour ça aussi qu'au niveau de l'intelligence des personnages qu'on a dans les fictions, et aussi quand on a des fictions qui nous présentent des professionnels au niveau des compétences, on a généralement affaire à des gens beaucoup plus intelligents que la moyenne et beaucoup plus compétents manifestement aussi que la moyenne des professionnels, quoi, que ce soit dans les hôpitaux, dans la police, chez les avocats, etc. Le choc est assez...
Et même les méchants sont hyper méchants.
Et même les méchants sont premièrement beaucoup plus passionnants et fascinants, deuxièmement beaucoup plus intelligents, beaucoup plus méchants, oui. Enfin, et alors il y a le physique, hein, qui joue énormément beaucoup. On avait déjà pu constater le contraste quand on regardait The Corner, mm-hmm. puisque à la fin de The Corner, oui. On voit les personnages qui sont véritablement représentés par la fiction qu'on a vue.
Et tout d'un coup, il manque une part de magie, là.
Oui, le choc est assez grand parce que ils sont beaucoup moins beaux que les acteurs.
Et ils ont l'air un peu bébêtes, là, devant la caméra, à ne pas savoir quoi dire, alors qu'on a vu de superbes acteurs jouer à la perfection des heures durant.
On a adhéré totalement à leur misère, quelque part. Et puis, quand on voit la misère, la vraie, le visage de la misère, là, tout à coup...
Elle nous intéresse moins.
Disons que c'est plus rude, quoi. Donc, voilà.
À la fois, c'est con ce que je veux dire, mais c'est plus réel. On a l'impression que là, quand on voit un reportage, que ça peut vraiment nous arriver, ça fait même... parce que c'est à notre porte. Et quand c'est mis en mode fictionnel, on se dit, tiens, ça peut être bien qu'il y ait des morts et des drogués et des machins. C'est marrant presque.
Oui,
c'est du divertissement, on s'amuse bien. Et quand on se rend compte que que les mêmes personnages ont existé, qu'on pourrait même les rencontrer, leur serrer la main, on n'a presque plus envie de leur serrer la main. Vous êtes trop sale pour nous. Mais non, mais restez dans le coin.
Oui,
qu'on aurait presque envie de se promener dans les scènes filmées pour la série, quoi.
Mais c'est intéressant parce que quelque part, à la fois, on se dit la fiction nous éloigne du réel et nous fait vivre dans une sorte de monde idéal comme ça et nous empêche de vraiment nous intéresser aux vrais gens et aux vrais problèmes. Mais en même temps, sans ce médium-là de la fiction, peut-être qu'on se serait tout simplement jamais penché sur la question des drogués ou de... Tu vois, parce que, justement, ils sont trop laids, ils ont l'air trop bêtes, non,
oui,
je
vais
pas aller voir là-bas.
En même temps, oui, justement, ils sont trop beaux d'un autre côté. Est-ce que ça ne dédramatise pas un peu leur...
C'est le gros problème.
On en prend conscience parce que voilà, on le regarde en face, mais on le regarde pas du tout en face, ce problème, puisqu'en soi, c'est pas le vrai problème. Et on se dit, c'est chouette, ça existe. Et on s'implique pas vraiment dans le combat, tu vois. On est dans un mode spectateur qui se divertit, et puis quand l'épisode est terminé, le problème n'existe plus.
Je suis pas certaine que ça n'ait pas malgré tout une certaine utilité.
On part à la découverte comme on partirait en voyage, on découvre des mondes inconnus, enfin c'est un peu ça, hein.
Mais disons qu'on découvre une réalité, mais une réalité un petit peu édulcorée par le fait que on nous la présente un petit peu plus belle, un petit peu plus accessible, plus compréhensible.
Et à la fois moins grave, comme on sait dans notre inconscient que c'est de la fiction.
Évidemment, puisqu'elle est plus belle, plus compréhensible, plus accessible, elle est aussi moins vraie, moins grave, moins tragique.
Oui, ok. Comme si des sopranos tuaient devant nous en réel quelqu'un, on serait certainement choqués. Alors que là, on mange nos chips, on boit notre bière, ah ça y est, celui-là il est mort. Enfin, tu vois, c'est vraiment ça. On se met en mode spectateur qui se délecte de toutes les saloperies qu'on peut nous mettre sous les yeux.
Oui.
Mais oui, mais.
Oh.
Mais quoi?
Mais oui, d'accord. Mais en même temps, il faut pas non plus nous présenter comme totalement insensibles et incapables de tirer quelque chose de ce qu'on est en train de regarder.
Mais non, je dis pas ça. Mais malgré tout, bon. Voilà, on peut mettre pause quand on veut aller à la toilette et puis faire un « Ah, c'était vraiment horrible, on va se le regarder une deuxième fois ». Donc, il y a quand même une part de plaisir un peu malsain.
Oui, bien sûr, bien sûr. Mais donc, ouais, voilà, c'est assez marrant. Aussi, au niveau de l'intrigue, évidemment, mais quand c'est dans une fiction, on a une intrigue qui est bien construite, on a beaucoup moins de temps mort, on a moins de trucs qui servent simplement à rien du tout, des moments où on va dans une direction et puis en fait, ça servait à rien, fallait aller ailleurs. Enfin, il y a beaucoup moins tout ça, il y a une sorte de sens qui est déjà donné à ce qui se passe, forcément, dans le réel, on n'a pas ça. On n'a pas de sens qui est prédonné et du coup, au niveau du propos, ça va être la même chose. On n'a pas de propos sur le monde quand on est en train de le vivre, on est en plein dedans,
voilà.
les deux pieds dans la berdouille.
On décide pas vers quoi on veut aller, on subit un peu la chose.
On subit un petit peu, même si je relativiserai un petit peu le propos en disant que malgré tout le réel en question n'est jamais totalement brut. Parce que même quand on est en train de le vivre, on est quand même toujours en train de le vivre à travers notre manière de le comprendre. Et donc, il y a déjà une forme de mise en sens, un sens qui est donné par la manière dont on va le regarder.
Bien.
Voilà.
Non, c'est bien. Je suppose que ça lance le prochain sujet qui va arriver dans quelques instants après une petite pause musicale.
Oui, on va s'écouter Question de Rhett Miller, entendu dans Scrubs.
She woke from a dream. Her head was on fire. What was he so nervous? He took her to the park. She crossed her arms and lowered her eyelids. Someday somebody's gonna ask you a question that you should say yes to. Once in your life, maybe tonight, I got a question for you. She'd had no idea, started to cry. She said in a good way. He took her by the hand, walked her back home, and they took the long way. Someday somebody's gonna ask you a question that you should say yes to. Once in your life, maybe tonight, I got a question for you. I got a question for you.
Nous voici de retour avec la suite de ce sujet du jour, différence entre réel et fictionnel.
Oui, cette fois-ci, on va se placer du côté de la fiction pour un petit peu continuer à réfléchir à cette question-là. Alors, j'avais notamment déjà abordé un petit peu le sujet dans l'émission passée en disant qu'il y a une tendance actuelle à vouloir du réalisme à tout prix dans nos séries. Je sais pas si tu t'en souviens, mais j'avais expliqué à quel point le réalisme qu'on cherche dans nos séries correspond assez bien aux caractéristiques justement que le format série offre en particulier, c'est-à-dire quelque chose de très individualisé, très quotidien, très basé sur les détails et beaucoup moins sur les visions d'ensemble, etc. Et donc, le problème avec ce réalisme, c'est qu'il va généralement s'exprimer dans les fictions à travers seulement un ou deux éléments, mais jamais à travers tout. Quand on pense à des séries qui nous semblent un peu plus réalistes que les autres, on pourra se dire, oui, les personnages sont plus réalistes, mais par contre, c'est vrai qu'au niveau de l'intrigue, c'est pas tellement réaliste. On pourra se dire, c'est vrai qu'au niveau du rapport au temps et au fait qu'on ne sait pas trop bien, les personnages ne savent pas trop bien où ils vont, etc., c'est plus réaliste. Mais en même temps, les personnages sont particulièrement beaux ou bien particulièrement intelligents. On peut avoir aussi des séries qui vont essayer d'avoir un traitement de l'image, de la manière de filmer, qui donne un effet plus réel, mais il y a d'autres éléments qui, eux, ne le seront pas. Il y a énormément de choses comme ça qui vont pouvoir être mises en œuvre pour nous donner une sensation de réalisme, mais on n'est jamais dans le réalisme complet où on aurait rien que des personnages bruts de décoffrage, rien que des intrigues ou personne ne sait jamais exactement ce qui se passe, où on va, etc. Où le rapport au temps est le même que dans le quotidien réel, où y a beaucoup de temps mort, il y a beaucoup de temps qui ne servent à rien, etc.
Mais comme tu le dis, bon, de un, c'est le nombre d'éléments qui se veulent plus réalistes, qui vont être plus réduits. Mais en plus de cela, on va tenter de s'approcher d'une certaine réalité, mais on n'y sera jamais. Quoi qu'il arrive, ce sera plus réaliste, mais on ne sera jamais dans une réalité pure et dure, dans aucun des éléments fictionnels.
Non, ça, de toute façon, oui.
On va tenter de s'en approcher, mais...
Même quand certaines séries utilisent certains stratagèmes pour paraître plus réalistes, malgré tout, ça reste des stratagèmes, évidemment. Et même si tu veux pousser un petit peu plus loin, tu peux te dire que Making a Murderer, d'accord, c'est basé sur une histoire vraie, mais le travail qui a été fait sur tous ces documents-là pour les mettre, les agencer, etc., les mettre en histoire, c'est déjà un travail qui les rend plus tout à fait exacts par rapport à ce qui s'est vraiment passé, tu vois. Il y a déjà un point de vue.
C'est déjà un peu romancé, c'est déjà mis en forme.
Ah oui,
voilà.
Très
et donc, ça détourne un peu la réalité brute telle qu'on aurait pu se la prendre en pleine figure en regardant la télévision, par exemple, par rapport à ce sujet-là, en suivant les reportages qui auraient été faits à l'époque.
Oui, mais même la télévision, c'est déjà...
C'est déjà trop, oui, bien sûr.
Le problème, c'est ce que j'expliquais juste avant la musique, c'est que le réel brut... Ça n'existe de toute façon pas. Il y a toujours, malgré tout, une médiation, quelle qu'elle soit. Il y a toujours quelque chose qui se passe entre ce qui se passe et puis la manière dont ça va s'inscrire dans notre cerveau, quoi. Il y a toujours au minimum notre cerveau qui fonctionne entre les deux pour lui donner une forme quelconque.
Ouais.
Donc voilà, ça c'est la première chose. On peut penser à plein de séries comme ça qui vont jouer là-dessus. Par exemple, si on pense à une série comme je sais pas si toi t'as des idées en tête de séries qui te paraissent plus réalistes que d'autres, mais imaginons par exemple une série comme Friday Night Lights, qui au niveau de l'image, au niveau de la manière dont elle, au minimum, surtout dans le pilote, mais c'est vrai qu'ils ont essayé de garder plus ou moins cette manière de filmer-là, ressemblait presque à du documentaire par certains moments, dans la manière de nous présenter la ville, etc. Mais c'est vrai que sur ce point-là, elle joue la carte du réalisme. Mais par contre,
pour le reste,
les personnages sont, sont beaucoup plus doués, beaucoup plus beaux qu'on ne pourrait, j'imagine, en trouver dans un lycée ordinaire, etc. De même, une série comme Lost, au niveau du rapport qu'elle peut avoir au temps ou au fait de n'avoir absolument aucune idée de ce qui se passe et de pourquoi ça se passe et quel est le sens de tout ça. Elle est très forte là-dessus. On pourrait se dire que c'est réaliste. Mais en même temps, il y a plein d'autres points sur lesquels Lost, c'est pas du tout réaliste. Un dernier exemple encore. Game of Thrones est souvent reconnu. On dit souvent que son succès est dû beaucoup au fait qu'on nous présente un monde de fantaisie, mais en même temps de manière réaliste.
Ouais.
Mais ce qui nous est présenté comme étant réaliste, c'est pas du tout l'histoire, c'est pas du tout la mise en intrigue, c'est pas du tout les personnages non plus. C'est plus les détails, la manière, la violence avec laquelle les choses se passent et des choses comme ça. Mais finalement, il y a plein de choses qui sont absolument pas réalistes, quoi. À chaque fois, on peut donner 10 000 exemples comme ça dans lesquels, entre la fiction réaliste en question et puis la réalité, il y a évidemment tout un monde.
Ben, un autre excellent exemple, c'est The Office. Ils ont essayé d'arriver là avec une équipe comme s'ils étaient en train de faire un reportage. Bon, après, ce qu'on y voit, on a tout de suite compris qu'on était dans de la fiction, puisque c'est complètement délirant.
Oui.
Mais ils ont essayé de se donner cette petite touche médiatique par rapport au fait qu'ils soient en train de faire un reportage. Mais voilà.
Oui. Oui, à chaque fois, il y a un petit jeu comme ça qui se fait entre la fiction et puis qui essaie un petit peu de lorgner du côté du réel. Une remarque sur cette tendance à vouloir chercher le réalisme à tout prix, généralement, mais c'est parce qu'on cherche à y croire. On veut quelque chose qui nous semble vraisemblable.
Plausible, oui.
Et donc, pour que ça nous semble vraisemblable, la recherche, c'est essayer de ne pas voir les ficelles, ne pas voir que c'est un truc qui a été écrit, ne pas voir qu'il ne s'agit pas de vrais personnages, ne pas voir que l'univers est fantaisiste, ce genre de choses-là.
C'est pour aider à ce qu'on s'imprègne plus rapidement du récit, qu'on
ben
se sente plus...
On peut imaginer qu'il y a un besoin dans le public actuel de ça, pour adhérer davantage aux histoires. Le problème, c'est que... Comme évidemment, il ne s'agit pas de réel, mais il s'agit d'adhérer à une image, à une représentation qui nous est donnée du réel, il y a une sorte de puissance idéologique de la fiction qui se présente comme réaliste. Parce qu'elle dit, voilà, le réel correct, c'est censé ressembler à ça. Si ça ne ressemble pas à ça, c'est pas vraiment réel. Et d'ailleurs, on a tendance, et c'est ce que j'expliquais avec Making a Murderer, si ça avait été une fiction, je n'y aurais pas cru parce que ça m'aurait semblé trop gros. Tu vois ? Et donc, il y a une tendance comme ça à travers la fiction réaliste à nous dire si ça ne correspond pas à un certain nombre de critères que nous, on croit réels, réalistes, eh bien c'est que ça ne l'est pas. Le problème, c'est que forcément, si on a une sorte d'image idéale de ce qu'est censé être la réalité, ça empêche un petit peu toutes les formes de dissidence, d'expression un petit peu différente de ce que peut être la réalité. C'est exactement ce que j'expliquais. Donc, la fiction, il faut quand même toujours bien se rendre compte que c'est pas le réel et c'est surtout le lieu où va se passer une lutte entre différentes définitions de ce qu'est le réel, justement. Et donc, si on ne permet pas à la fiction de rester un lieu de lutte et qu'on prétend qu'elle représente la réalité, qu'elle est réaliste, là, on risque d'être un petit peu trop conformiste et d'un petit peu trop enfermer notre imaginaire dans une conception de ce qu'est censé être le réel.
Waouh. Non, vraiment, je suis scotché. Bon, une petite pause musicale avant de terminer cette émission.
Oui, il s'agit de Gunshot de Lucky Lee, entendu dans Mistresses.
I am longing for your poison, like a cancer for its prey. Shot an arrow in your harbor, where you waited in the rain. I am sorry, I am happy, I am no one, I'm nobody. I am
voilà, nous en sommes déjà arrivés à la dernière partie de cette émission, le moment de conclure, plus ou moins, avec toi, Aurore, évidemment.
Oui, tu peux participer.
Hein. Ouais, pas, oui, moi je t'écoute, j'argumente parfois. Mais...
La question qu'on se pose, c'est faut-il remettre en question la fiction ? Et donc notre passion, notre envie de regarder des fictions sous prétexte qu'elles ne représenteraient pas bien le réel. C'est un petit peu là-dessus qu'on était parti.
Oui, mais là moi j'ai une réponse toute faite.
Vas-y.
Eh bien non. Il
oui,
nous faut encore du rêve, on a besoin de ça, on a besoin de s'évader, de sortir du réel, voir des choses belles, voir des choses qui nous font planer, qui nous donnent une claque visuelle par rapport à toute cette grisaille qu'on voit dehors.
Mais Ça peut en effet être un premier argument, le simple argument du besoin de beau, du besoin d'évasion, du besoin
du
de plaisir.
Du parfait aussi, enfin, tu vois, des choses vraiment bien faites, des beaux discours, des beaux laïus d'avocat au tribunal, alors que c'est souvent bien nul un tribunal, mais bon, voilà.
De fait, ça... Étant donné qu'il s'agit d'un art, ben ça répond à ce besoin-là, le besoin de beau, le besoin de parfait, le besoin de quelque chose de plus qui dépasse un petit peu notre simple condition de mortel. La deuxième réponse qu'on peut apporter aussi, c'est que non, tout simplement parce que c'est pas sa fonction. La fonction de la fiction, c'est pas de nous représenter exactement tip-top la réalité telle qu'elle est. On peut parfois avoir cette illusion-là. Certains semblent parfois de manière un petit peu trop catégorique le revendiquer et délégitimer du coup toutes les fictions qui ne seraient pas suffisamment réalistes. Mais en vérité, la fiction, son rôle, c'est pas du tout de nous représenter le réel. La fiction, son rôle, ça va être de nous faire réfléchir, de nous faire voir d'autres possibilités. Ça va être aussi de permettre d'ouvrir un espace dans lequel vont pouvoir s'affronter des points de vue différents sur un plan purement symbolique. Parce que l'idée, c'est toujours que grâce à la fiction, à l'intérieur de la fiction, et à travers la lutte entre différents points de vue, on va arriver à une sorte de consensus. Le consensus est toujours fragile et donc est toujours remis en question par les nouvelles fictions qui arrivent, mais c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de continuer à vivre ensemble tout en intégrant les nouvelles manières de voir, les critiques, etc. Donc c'est à ça que ça sert avant tout la fiction. Donc il faut faire attention à ne pas prétendre que la fiction représente le réel. C'est pas du tout son rôle. Par contre, évidemment, il est important que les créateurs soient à l'écoute de la réalité qui les entoure afin de refléter au mieux les débats, les dissensions du moment et de pouvoir les intégrer dans leur fiction.
Oui, sans oublier peut-être les petites phrases toutes faites qu'on pouvait entendre et qu'on peut encore entendre. Ah voilà, on a vu ça à la télé, donc maintenant les jeunes ils font pareil. c'est une source d'inspiration pour le réel et c'est mal de montrer certaines choses en fiction. Enfin voilà.
Oui, ça c'est toujours une vision extrêmement simpliste de pure causalité comme ça qui méconnaît un petit peu toute la richesse de la fiction.
C'est un peu la peur de l'inconnu.
Mais ça l'a toujours été. La fiction fait toujours très peur.
Bon, ben voilà, toi tu es téméraire, tu n'as pas peur.
Non,
tu t'infliges de la fiction à grande dose.
Mais oui, je suis une vraie héroïne.
T'es une combattante. Merci en tout cas de te placer en guerrière pour nous. Tu découvres les fictions qui doivent être regardées et celles qui doivent être jetées à la poubelle.
Oui.
Et grâce à ça, tu protèges un peu le réel. Bon, sur ces bonnes paroles, on a terminé pour aujourd'hui.
Oui, on a terminé pour aujourd'hui.
On vous rappelle, pour ceux qui aiment cette émission, qui aimeraient pouvoir la réécouter ou qui n'ont pas tout entendu, tout simplement aujourd'hui, le podcast sera disponible dans les prochains jours, prochaines heures même, via notre site internet www.seriefolie.be, les réseaux sociaux également, seriefolie.be, c'est pour Twitter, Facebook, ce genre de choses. Twitter, on y est.
Sur Twitter, c'est @seriefolie. Et
voilà, on est précis.
Sur Facebook, c'est seriefolie. En un mot.
Parfait. Merci à toi pour cette belle émission une nouvelle fois. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. On va se quitter en musique.
On va s'écouter en Trou.
Trou.
de Spando Ballet.
Spando Ballet, oui.
Voilà, entendu dans Modern Family.
Merci à toi, à la semaine prochaine en pleine forme.
À la semaine prochaine.
true. Funny how it seems, always in time, but never in line for dreams. Head over heels, went toe to toe. This is the sound of my soul. This is the sound.
Come back again.